Pour une semaine et une nouvelle thématique à aborder, toujours le même plaisir de vous retrouver, partagé, je l'espère, par nos experts qui nous font l'honneur de répondre à toutes nos interrogations sur cette question ô combien cruciale, dirais-je même quasi vitale pour notre quotidien, puisqu'il s'agit de la question de l'alimentation de nos foyers en énergie avec ce projet de futur central du Larivo. Nos experts, Davy Riemann, secrétaire général syndicat UTG Éclairage, et M. Harry Hautebourg de Cap 21, opposant au projet Éclaire nos lanternes, si je puis dire, sur un sujet qui fait débat. Mais je vais d'abord demander à chacun d'entre vous de me faire une genèse du projet. Alors je vais vous demander de le faire, bien sûr, selon votre point de vue. Je vais commencer par M. Riemann.
Alors, bonjour à toutes et tous, bonjour aux auditeurs de Radio Marie de Campus. Donc la genèse de ce projet elle date de 20 ans quasiment. Que ça fait pas de, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du remplacement de la centrale de Gradécal, qui a vu le jour en fin des années 70. Donc cette centrale là a quasiment 40 ans. Donc j'en poussé Jean-Jacques Codin de ses possibilités. Donc étant le bienvenu de remplacer cet outil de production. Donc nous sommes pour une centrale dite thermique sur le territoire guyanais, de par la configuration de l'alimentation et du réseau sur le territoire guyanais. Donc c'est surtout pour des raisons plus techniques qu'autre chose. Donc partant de ce principe-là, nous mettons pour une telle structure.
Merci. Monsieur Hautebourg.
Oui, bonjour à Guyane. Bonjour tout le monde. Effectivement, la question de l'approvisionnement énergétique de la Guyane, c'est un débat crucial et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faille plus de production pour alimenter cette population qui croît et une production et aussi un acheminement et une distribution sécurisée de l'électricité. Donc, effectivement, la centrale du Larivo arrive à bout de souffle. D'ailleurs, il y a des choses qu'on nous...
Des cannes.
Il y a des choses qu'on ne dit pas exactement sur cette centrale qui, de fait, ne fonctionne déjà pratiquement plus en réalité. Hein. Et ça, on le cache pas mal aux gens. Elle ne fonctionne plus selon son mode initial avec les gros moteurs, les quatre cheminées qu'on voit. Aujourd'hui, à des droites des cannes, il y a déjà beaucoup de rafistolage. Donc on a ajouté des moyens sur place à la centrale qui existait jadis. Donc ça on le cache beaucoup aux gens, on va développer. Mais ce qu'on dit, c'est que pendant des années, il y a eu un processus pour aboutir à une programmation pluriannuelle de l'énergie, une PPE, qui a abouti en 2017. Et surprise, dans cette PPE, on confirme une nouvelle centrale au Larivo, et aussi des moyens de production en énergie renouvelable. Et nous, on est tombés des nues qu'en 2017, alors que l'objectif était clairement était affiché d'une autonomie énergétique du territoire grâce aux énergies renouvelables en 2030, on nous pond dans cette PPE une centrale thermique qui est en fait la préhistoire de la production énergétique.
Je vous remercie, messieurs. Je vais vous poser la question centrale de notre émission aujourd'hui, mais vous aurez chacun la version qui vous sied. Enfin, j'espère qu'elle vous sied, d'ailleurs. Donc, je vais commencer par monsieur Hautebourg. Pourquoi ce projet ainsi de centrale thermique n'est pas la bonne solution pour répondre aux besoins en alimentation énergétique de la Guyane ?
Moi, je vais me contenter, mot pour mot, de reprendre les attendus du jugement du tribunal administratif du 27 juillet 2021. Qu'est-ce qui stipule que le projet de centrale du Larivo est sur un emplacement inadéquat, c'est-à-dire une zone marécageuse, une zone de mangrove, qui est soumise à des risques d'inondation et de submersion marine dans l'estuaire de la rivière de Cayenne. La rivière de Cayenne, c'est celle qui passe sous le pont du Larivo. C'est pas moi qui le dis, c'est le juge, après avoir examiné les documents qui étaient à sa disposition. Ce ne sont pas des divagations. conduire à Rivo et à quelques kilomètres, et pour quelques centaines de mètres, et ce projet semble méconnaître la loi littorale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une telle centrale n'est pas conforme aux engagements climatiques de la France en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a des engagements climatiques très clairs, pris au niveau international, et par exemple, une telle centrale ne pourrait pas voir le jour sur le territoire de la France hexagonale. Et puis la troisième chose, c'est que dans la panique, les promoteurs de cette centrale, qui à l'origine était une centrale à fioul, on a fermé la porte, ils ont essayé de passer par la fenêtre en proposant qu'il y ait une alimentation en biomasse liquide, donc c'est les biocarburants, colza, etc. Et le jugement dit que cette alimentation en biomasse liquide est incertaine. Donc voilà tout simplement les principaux points qui font que ce projet semble inopportun.
Je vous remercie, Monsieur Riemann, même question, mais sous un angle différent. Pourquoi justement ce projet de centrale est la meilleure solution pour répondre aux besoins en alimentation des Guyanais?
Il est ce qu'il est. C'est sûr que nous si on avait eu à choisir, on n'aurait jamais été là. Clairement. C'était notre poste de départ. On avait très clairement fait savoir à qui de droit. Après, nous avons vu qu'il y a eu des délibérations prises au niveau politique. Il y a eu un choix qui a été fait aussi au niveau industriel, qui nous a été quelque peu incompréhensible, mais voilà, il est fait et malheureusement, il est là.
Vous n'avez pas participé
Non, pas du tout. Nous,
vous n'avez jamais été consulté
à aucune façon.
Aucune étape.
Aucune étape. Non, pas du tout. Nous avons découvert qu'il y a une délibération qui avait été prise au niveau de la CTG, à l'époque. Et nous, on avait fait savoir au niveau d'EDF qu'il serait inopportun de quitter la zone de dégradé Cannes, de par la configuration telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon. À ce niveau-là, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de consultation quelle qu'elle soit, et la décision a été prise. Ensuite, il faut bien comprendre une chose. Nous, quand on a opté pour la centrale thermique, c'est bien parce qu'au départ, on savait pertinemment qu'il y avait possibilité de faire tourner nos biocarburants, parce qu'on avait, demandé de faire des tests au niveau de la Guadeloupe sur les moteurs similaires. Et effectivement, la Guadeloupe a fait des tests avec le biocarburant, et ça s'est avéré concluant. Donc pour nous, c'était le deal, en fait. Oui, c'est notre thermique. Pourquoi le deal? Parce qu'en partant sur la biomasse liquide, donc du biocarburant, ça ouvrait la porte à mettre en place une filière sur le territoire guyanais, et donc à développer cette filière-là et à approvisionner en premier lieu la production électrique, mais pas que. Parce que je rappelle que tous les véhicules, enfin la grande majorité, circulent en moteur thermique. Et sauf erreur de ma part, parce que ça, ce sont les chiffres de la préfecture et de l'ADEME, le taux de pénétration des véhicules électriques au territoire sera de 5%. Après, dans une autre pratique, on pourra expliquer quelle sera la problématique aujourd'hui par rapport aux véhicules électriques. Ensuite, en fait, le choix du thermique, c'est pas forcément... on veut absolument du thermique par rapport à autre chose. C'est que, on a déjà dit, répété, je vais essayer de le faire de façon plus simple encore aujourd'hui, c'est que techniquement, les moteurs tournants, les moteurs tournants ont cette capacité technique de récupérer et de combler, de stabiliser aujourd'hui ce qu'on appelle maintenant la perte de puissance ou la fréquence qu'on a sur le réseau. La fréquence qu'on a sur le réseau, qui est une fréquence de 50 Hz, donc c'est dans tout ce qui est les matériels ou ce qui a des cartes électroniques, et là maintenant aujourd'hui tout est équipé de cartes électroniques aujourd'hui. La fréquence a un impact direct sur tout ce qui est cartes électroniques. Et aujourd'hui, on a l'obligation contractuelle de faire de façon que la fréquence soit la plus stable possible pour ne pas justement que les appareils grillent. C'est pour ça que bien souvent quand il y a des coupures et ça revient dans les habitations ou dans les lieux de vie, souvent des fois des personnes disent « Ouais, mais ma télévision ne redémarre plus, ma machine à laver, mon frigo. » C'est parce que la carte électronique a pris un coup au travers de la fréquence. Et quand la fréquence chute énormément, qu'est-ce qui se passe? Le système du réseau se met en sécurité. Il fait ce qu'on appelle dans le jargon technique des délestages. Donc en fait, il enlève de la consommation sur le réseau. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir dans des communes et des quartiers qui n'ont pas d'électricité à un moment donné. Ça s'appelle ça des délestages. Pour que la fréquence puisse se restabiliser, qu'elle revienne à 50 Hz et qu'elle ne bouge pas trop. Et une fois que c'est stabilisé, il y a une fermeture qui se fait quartier par quartier en espérant que ça tienne, que ça ne bouge pas trop. Donc techniquement, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, en Guyane, on a de la production thermique, production hydraulique, production solaire, production biomasse. Ce qu'on appelle, nous, un mix énergétique. Et dans ce mix énergétique-là, le solaire, aujourd'hui, représente pratiquement à peu près 20 mégawatts. Ils peuvent produire à des fois 20 mégawatts, pas mal. La biomasse produit aujourd'hui 5 mégawatts, 5-6 mégawatts au mieux. L'hydraulique, avec petit saut, donc on a 4 turbines de 30 mégawatts installées, donc ça fait pratiquement 120 mégawatts. Ensuite, il y a il y a deux usines de petites hydrauliques, on appelle les turbines au fil de l'eau, qui produisent chacune 2-3 mégawatts. Et donc toute cette composition-là, aujourd'hui, bon, d'une part, aujourd'hui, en installé, ne suffisent pas pour tout le territoire, il y a un manque. Mais deuxièmement, ce mix-là permet de fonctionner grâce à la présence du thermique sur le réseau. D'accord ? En soi, c'est que on pourrait potentiellement imaginer de dire on mettrait sur le réseau que, par exemple, de la biomasse, du solaire et l'hydraulique. D'accord ? Si on mettait que ça, par exemple, la biomasse devrait prendre tout l'espace laissé
par le thermique.
Parce que c'est l'énergie garantie. Et donc, ça permet de. Sauf qu'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais mettre, j'ai envie de dire, entre guillemets, 200 MW de 150 ou 200 MW de biomasse. C'est pas vrai. Donc, on sait quelle est la limite de l'utilisation de la biomasse aujourd'hui. Malheureusement, c'est une réalité. Et donc, pour nous, pour sécuriser cette partie-là, la centrale thermique est nécessaire sur le territoire guyanais de par sa configuration. C'est pour ça que nous militons pour un mix énergétique, mais pas plus une utilisation d'une par rapport à l'autre. C'est surtout ça, notre posture de départ.
Je vous remercie. Monsieur Hautebourg, quels sont les motifs, vous en avez parlé tout à l'heure, du jugement. Quels sont les motifs pour lesquels, les arguments, pour lesquels Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement se sont appuyés justement pour saisir la justice.
De manière très claire, Madame Sesto, je ne peux pas parler pour France Nature Environnement.
Oui,
non, laissez-moi parler et Guyane Nature Environnement, puisque je ne fais pas partie de ces associations. Je le dis en toute transparence, je n'ai jamais rencontré ces personnes. Hein. C'est très important de dire, moi je suis un citoyen, un militant écologiste local, et je ne suis affilié à aucune association nationale. Par contre, je vous remercie mille fois de m'avoir invité aujourd'hui, parce que j'ai entendu M. Riemann dire en préambule que le lieu d'implantation de cette centrale n'était pas opportun. Or, c'est bien la base de la chose. La centrale, elle n'est pas éthérique. C'est quelque chose de concret. Elle se trouve à un endroit. Donc moi, je ne comprends pas. Le préalable, la technologie, ça vient après. Mais c'est bien ça le problème, et c'est bien le premier élément que le juge a relevé. Il a dit l'endroit n'est pas opportun, et je ne vois pas en quoi cette énergie serait garantie, sécurisée sur un lieu dont la configuration géologique n'est pas garantie. Parce que en cas, il y a eu des études, des hypothèses qui ont été faites. En cas d'éléments climatiques extrêmes dans cette zone marécageuse, tous les moteurs vont s'arrêter de tourner. Hein. Là, on ne sera plus à un petit délestage.
Donc, merci de répondre à ma question.
On ne sera pas un petit délestage. Sur un mix énergétique, encore une fois, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais ce que nous disons, c'est que qu'il y ait de la pointe avec du thermique. Pourquoi pas? Mais on parle d'une centrale de grande taille, au Larivo, au mauvais endroit. Et le problème politique dans cette histoire, parce qu'on parle aussi du technique, mais il faut partir du politique, c'est qu'on n'a pas pris sérieusement en compte la possibilité de déployer plus d'énergie renouvelable dans la PPE. Et si on avait commencé ça, il faut savoir que la PPE qui est sortie en 2017, elle avait déjà du retard. Puisque, comme l'a rappelé M. Riemann, la centrale de Guadeloupe-Décane, qui date de la fin des années 70, était déjà au-delà de sa durée de vie normale. Donc, il faut le dire, même si on est dans un débat technico-politico-écologiste, il faut rappeler qu'il y a des gens qui ont une responsabilité politique très grave dans ça. Aujourd'hui, on ne devait pas être en train de parler du remplacement d'urgence d'une centrale qui est déjà en fin de vie.
Ne vous inquiétez pas, on va y venir.
Il y a de graves responsabilités politiques. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut un positionnement politique fort, volontariste. Les projets existent en énergie renouvelable. Évidemment qu'il faut un mix. C'est sur la table du préfet. Il faut déployer pas seulement plus de biomasse, plus de solaire, plus de biogaz.
Si je vous reprends tous les deux, vous êtes d'accord et vous vous entendez sur un point, c'est sur le mauvais emplacement du projet.
Alors, je répète encore une fois, nous, on a fait savoir notre position, c'était que la centrale, la future structure, en fait, reste sur la. En fait, industriellement, techniquement, on ne comprendrait pas qu'il fallait sortir de la zone de dégradation. Pour nous, en tant que techniciens, ça n'avait pas de sens, puisque l'approvisionnement arrivait à dégrader Cannes. Et qu'au départ, cette centrale-là, quand on le veuille ou non, même si on met la filière biomasse sur le territoire guyanais, au départ, vous serez dans l'obligation d'importer le biocarburant, quel qu'il soit. Donc, c'est sûr qu'en déplaçant la centrale, aller la mettre sur un autre truc que dégrader Cannes, vous mettez en exergue d'autres contraintes particulières.
Le pipeline ?
Oui, par exemple, oui.
De 12 km
pour alimenter celle-ci. Donc, automatiquement, nous, on disait qu'il fallait rester à dégrader Cannes. C'est pour ça que ce choix-là, quand il était pris, on a été quelque peu fortement étonnés.
Alors pourquoi ne pas sensibiliser et joindre, coordonner l'effort pour alerter les pouvoirs publics sur ce problème d'emplacement ?
Non, ils ont, mais madame, ils ont les informations. Après, c'est une question de responsabilité politique et de choix politique. On ne peut pas plus les sensibiliser sur un dossier qui est à côté qui est sur la table de chevet.
Là, mais on est d'accord. Mais, monsieur Hautebourg, là, on est plutôt sur un conflit entre les contre et les pour, plutôt que d'essayer de.
Non, mais en fait,
il n'y a pas de conflit.
Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que le souci qui se pose aujourd'hui, on va partir dans l'histoire, c'est le timing. Aujourd'hui, les études ont été menées sur ce terrain-là, les engagements ont été faits, tout ça. Donc, si demain il est dit par exemple définitivement, mais cette centrale ne se fait plus ici, il faut voir ailleurs, repartir sur un projet à zéro. Moi je suis très inquiet dans la mesure où une centrale qui a été validée depuis fin années 90, début 2000, on est en 2021, il n'y a toujours pas une première fois qui est posée quelque part. Moi je suis inquiet que si on repart sur un projet, qu'il n'y ait pas d'autres projets. Ensuite, il faut pas qu'on fasse d'amalgame, d'accord. On est sur de la production d'électricité à partir de choses qu'on maîtrise, qu'on sait reproduire. D'où on dit de l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est surtout par rapport à ce qui existe. Donc on a l'eau, on a le solaire, il y a le bois, il y a le vent. D'accord ? Ce sont des choses qui sont là, qu'on peut utiliser.
Même du biogaz.
Oui, bon, avec la méthanisation des déchets ou bien des matières organiques. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que au moment où on en parle là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Oui, les projets sont là. Sauf que quand on rentre dans le détail, dans le concret des choses, le problème de fond, il n'est pas plus écologique que ça. Hein. Parce que quand vous êtes sur le biocarburant fait partie des éléments qu'on sait reproduire à volonté. Maintenant, le problème de fond qui est posé, il n'est pas d'ordre écologique en soi, il est d'ordre financier. Parce que pourquoi ? Le problème qui se pose aujourd'hui sur nos territoires ultramarins, c'est que comme les coûts de production, de transport et de distribution
sont multipliés
par 4, par 5 par rapport au territoire hexagonal, il y a ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, et donc il y a la CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui compense ces coûts-là. Et donc quand une structure vient s'installer sur le territoire guyanais, ce qui garantit son arrivée, c'est qu'elle tombe d'accord de façon contractuelle avec la CRE. D'accord ? Mais la CRE va dire quoi ? Et c'est pas tellement sur. Et c'est là que le problème se pose. Nous, pour un minute, pour une centrale de 120 MW, parce qu'on voit aujourd'hui l'arrivée des différentes énergies dites renouvelables sur le territoire, on voit que les choses sont en train de se tendre. Nous, on dit qu'il faut mettre une stabilité, une base solide, afin justement de continuer à permettre l'arrivée des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que la Guyane est en train de continuer à se développer, à se construire. Il y aura toujours besoin d'énergie parce qu'on a de cesse de le répéter, pas plus tard que l'autre jour. Il est en train de dire que d'ici 2030-2033, en gros, il va falloir une structure ou les productions sur le territoire devront être doublées par rapport à ce qui existe à petit saut aujourd'hui. Donc, quand on sait ça, il faut poser les bases solides, Et comme exemple, je prends, c'est peut-être pas le bon exemple écologiquement parlant, mais en France, la base de la situation de la France, ce sont les centrales nucléaires. Ce qui a permis maintenant à la France, avec cette base hyper solide, de mettre en place des barrages qui viennent combler, du solaire, de l'éolien. Nous, c'est pas notre réalité, parce qu'aujourd'hui, on a un territoire qui est en pleine construction, en plein développement. C'est pas un territoire qui est déjà assis, et maintenant, on peut faire évoluer avec, avec plus d'éléments renouvelables. Nous, on dit aujourd'hui, posons cette centrale, en fait, cette structure qui va appeler cette solidité-là, tout en permettant maintenant, dans le développement futur, de continuer à raccorder. Pourquoi ? Pour finir, pour ne pas être trop long, quand vous mettez, je prends par exemple le solaire. Le solaire, c'est bien, en tout cas, la moitié de l'année, on a du solaire, la moitié de l'année, on a de la pluie. Le solaire, il produit l'énergie. Le problème qu'il y a avec le solaire, par exemple, c'est le stockage. Et aujourd'hui, si vous devez stocker 1 MW de solaire, vous devez avoir à peu près un conteneur de 40 pieds rempli de batteries. Ces batteries lithium-ion qui sont les plus appropriées pour cela. Sauf que une batterie, on va se dire clairement, il n'y a rien d'écologique dans une batterie. C'est des terres rares, c'est chimique, c'est ce que vous voulez. Mais le solaire a cette contrainte-là. Et c'est une production qui a beaucoup d'emprise au sol par rapport au panneau. C'est pour ça que je dis chaque production issue d'une matière particulière aura un inconvénient. C'est pour ça que nous, on dit, posons cela solidement, techniquement, qui permettra d'arriver d'autres. Mais là où le problème se pose, c'est que la CRE, est-ce qu'elle dit, bon écoutez, si je compense ça, je ne vais pas compenser là-bas. Et à partir de ce problème, à partir de cet instant, les gens vous disent, bon, écoutez, si moi je ne suis pas compensé comme je le souhaite, pour avoir mon business play et à pas avoir mon taux de rentabilité, je ne m'installe pas. Il est là le fond du problème.
Mais attendez, il ne faut pas tromper les gens. Vous avez parlé de base.
Oui.
Il faut bien que les gens comprennent ce que c'est qu'une base. La base, c'est la partie la plus large et qui maintient le système. Mais ce n'est pas une centrale thermique qui est la base ici. La base, c'est Petit Saut.
Oui.
La base, c'est les 60% de Petit Saut. La base, ce n'est pas 25%. Oui. Donc notre assise, c'est Petit Saut, qui, comme vous le savez, peut même avoir des pointes de production à un moment à 80% sur le réseau. Bon, on s'entend bien que la moyenne annuelle...
On dépasse pas 70, c'est pas possible.
Mais même 70, c'est pas mal. Voilà, vous le dites vous-même, 70. Oui, on peut avoir des pointes à 70 et ça peut descendre à moins de 50. Donc, la base, c'est Petit Saut. Donc, à côté de ça, encore une fois, je dis qu'on perd du temps. C'est ça le problème par rapport aux ENR, aux énergies renouvelables. Il est temps d'aller plus loin. Vous parliez de la CRE, mais que dit la loi? La loi dit qu'on ne peut pas développer un mode de production énergétique qui coûte plus cher que ce qui est déjà installé. Mmh. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a du déploiement du solaire. Il y a à peu près 150 installations en Guyane déjà. 150 de solaire. Alors, qu'on ne me dise pas que même si le solaire a ses inconvénients, et sur 150, il y en a 20 de taille respectable. Donc, aujourd'hui, le solaire coûte deux fois moins cher que le fioul ou la biomasse liquide importée. C'est même deux à trois fois moins cher. L'éolien coûte deux fois moins cher. La biomasse, c'est sensiblement le même prix. Donc, ce n'est pas les énergies renouvelables qui vont faire augmenter la facture énergétique et mettre en danger la péréquation nationale. D'ailleurs, il faut bien comprendre que dans la péréquation nationale, la Guyane ne compte pas pour beaucoup, en fait. Hein. Là, par exemple, la ministre de l'écologie a annoncé pas plus tard qu'hier qu'il y aura une augmentation de l'électricité de 12% l'année prochaine. Donc ça, c'est toute la France. Qu'est-ce que soit ce qui se passe en Guyane, on est très peu en population, ça impacte très peu le prix national. Mais aujourd'hui, ça coûte cher. Et puis, très important, pour moi, la biomasse liquide, les biocarburants, pour moi, c'est une arnaque quand on classe ça dans l'écologie. Pourquoi? En fait, on prend des terres agricoles sur lesquelles on plante des végétaux dont on peut tirer du biocarburant. Exemple colza. Ça veut dire qu'on prend des terres pour planter, pour faire du carburant, pour faire de l'énergie. Mais pendant ce temps, ces terres-là ne sont pas disponibles en terre agricole. Et en tant qu'écologiste, je suis très sensible à ce que les terres soient réservées à la production alimentaire. Et en Guyane, c'est pas comme si on était en autosuffisance alimentaire. Les gens, les agriculteurs se plaignent de ne pas avoir assez de terres pour déployer la filière agricole, qui est d'ailleurs un des points centraux du programme de l'actuelle majorité de la CTG. Et demain, voir, parce que ça fait de grandes surfaces, hein, si on devait alimenter la centrale du Gariveau qu'avec du biocarburant local, ça prendrait d'assez grandes surfaces.
Alors, il faut juste appeler une petite précision quand même. Le but qui peut-être se fait ailleurs, ce n'est pas ce qu'on veut mettre ici.
C'est ce que j'allais dire.
Nous, aujourd'hui, au contraire, c'est la volonté qui est affichée dans les discussions au préalable, c'est de dire qu'on travaille avec les agriculteurs qui ont des productions où est-ce qu'il y a des graines, tout ce qui est à queue. Donc le but, effectivement, c'est qu'en fait, en plus, il faut juste rappeler quelque chose. Hein, aujourd'hui, en Guyane, en carburant pour la production d'électricité, sur tout le carburant consommé sur le territoire guyanais, la production, c'est 15%. Hein.
Évidemment, c'est les voitures qui ferment plus que la centrale.
Les plus 80%, c'est le transport.
Évidemment.
Donc, c'est pour ça que moi, quand j'entends dire 2030 indépendance énergétique, ça me fait doucement sourire. Ça, c'est une farce. C'est une farce, c'est un gros leurre. Puisque d'ici 2030,
on est loin des objectifs.
C'est pas possible. Je suis d'accord, on n'y arrivera pas, mais il faut se mettre en route le plus tôt possible.
Sauf que.
C'est tout ce que je dis.
Aujourd'hui, quand on parle. En fait, c'est ça qui me pose un souci, parce qu'on parle d'énergie renouvelable. Ce n'est pas l'énergie qui est renouvelable, parce que cette énergie produite n'est pas renouvelée en soi. C'est ce qui vous permet de la fabriquer, quand on dit être renouvelable. Mais on voit que, quel que soit ce que vous allez prendre, il peut y avoir des contraintes à un moment donné. Il ne faut pas tirer la corde plus sur une que sur l'autre. Et par rapport à la réalité du territoire, vous devez prendre vos décisions par rapport à ce qui existe. Aujourd'hui, on a un problème pour alimenter les centrales biomasse. C'est pas une utopie, c'est un fait réel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la filière bois, aujourd'hui, malheureusement, c'est encore problématique. Ensuite, on a le solaire. Le solaire, 6 mois soleil, 6 mois de pluie. Bon, il faut compenser à différents niveaux. C'est pour ça que nous, la biomasse, pour nous, c'est bien, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Ça peut se faire ailleurs, on va prendre 100 hectares. On va planter que ça pour faire que ça. Faux. C'est que ce sont des produits qui sont utilisés dans l'alimentation. Les déchets, par exemple. Tout ce qui est je prends l'exemple, hein, quand on prend le wasaï. Le wasaï, on utilise la chair et après la graine, elle reste là et elle est jetée à la poubelle. Mais de la graine de wasaï, vous pouvez la prendre et l'utiliser pour fabriquer de l'huile et à partir de celle-ci, fabriquer votre biocarburant. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a le coupasou aussi, avec lequel on fait les jus, tout ce que vous voulez. La graine qui reste, vous l'utilisez. Il serait vraiment absurde de notre part de dire on est pour qu'on ait enlevé 200 hectares pour faire que ça. Mais c'est le même principe que sur les panneaux solaires. Quand vous voulez produire 1 MW de solaire, il faut que vous ayez 1 hectare.
Exact.
Donc si vous voulez avoir 50 MW de solaire, il faut que vous ayez 50 hectares d'emprise de sol pour des panneaux solaires. Donc chaque énergie, à partir de la matière que vous avez utilisée pour produire de l'énergie, vous avez des contraintes qui sont plus ou moins fortes. Et c'est pour ça que nous disons depuis le départ, là où je rejoins. Monsieur Hautebourg, pardon, Monsieur Hautebourg, c'est que là où il a raison, c'est qu'on ne va pas la production qui est majeure aujourd'hui, c'est le barrage de Petit Saut. Sauf que là où le thermique est important, comme ça je répète, c'est pour l'équilibre du réseau et de sa fréquence. Pourquoi ? Je donne un exemple par rapport à la turbine. Quand vous avez une perte de puissance ou que vous avez besoin d'aller chercher la puissance qui manque, les turbines, elles ont un temps d'inertie qui est bien plus long que les moteurs tournants. Ce qui veut dire que quand vous allez donner la demande pour qu'elle aille chercher la puissance manquante, elle va augmenter sa vitesse, mais doucement. Sauf que la fréquence va chuter plus vite que la vitesse va augmenter de la turbine. Ce qui fait que vous allez partir en délestage et pour pas que les gens soient en coupure d'électricité. Les moteurs thermiques conventionnels, qu'on appelle production dinosaure, mais... Aujourd'hui, on sait, vu la configuration du réseau, on sait pourquoi cette production est là. Elle va charger tout de suite. Elle y va. Et donc, le temps de chute des fréquences et le temps d'augmentation de vitesse pour aller chercher la puissance manquante permet justement qu'on ne parte pas en délestage. Ça permet de stabiliser le réseau. Et c'est pour ça qu'on soit, quand on dit que de meilleure la production solaire ou hydraulique en plus ou de la biomasse en plus, ce n'est pas un problème. À partir du moment que vous avez une assise thermique, qui permet de répondre rapidement sur 5, 10, 20, 30 mégawatts et pas aller chercher. Mais si vous mettez, je dis une bêtise, une grosse structure qui fait peut-être, je dis une bêtise, allez, 200 mégawatts de solaire, là, le thermique qui sera en infériorité en potentialité ne pourra pas combler une perte sèche. Parce que de plus en plus de projets sont financés pour le solaire, plus sans stockage, moins avec stockage. Parce que ça n'a pas le même coût, ça n'a pas la même gestion et ça n'a pas le même traitement. Donc vous voyez, c'est vrai que je peux comprendre les inquiétudes, les questionnements qui sont posés, et c'est aux uns aux autres d'y répondre et d'apporter une certaine assurance, même si le risque zéro n'existe pas. Mais l'important est que la pédagogie et l'explication se fassent pour dire qu'il n'y a pas d'opposition particulière à une énergie par rapport à l'autre. C'est pas ça, c'est de dire maintenant comment on structure toute la Guyane en production, en transport, en distribution, pour que nul ne soit laissé sur le carreau. Parce que ce qu'on parle là, ce n'est que le littoral guyanais. Hein. Si on parle de l'île de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent, on ne parle pas des communes qui sont enclavées et qui n'ont pas accès à cette énergie-là comme ça. Qui aussi, c'est un autre souci.
Non, mais moi j'entends bien ce discours aujourd'hui. Je suis d'ailleurs un peu surpris. Parce que c'est pas toujours.
On l'a toujours tenu là,
sur celui qu'on est. Là, on ne répond pas à quand même une question importante. La question, c'est que toutes les énergies ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais qu'une centrale thermique, ça a un vrai coût écologique sur les émissions à effet de serre. Mais bien sûr, mais plus, il n'y a pas plus polluant. Alors évidemment qu'il y a des recherches de matériaux pour fabriquer, que ce soit de l'éolien. On n'a même pas parlé d'éolien, il y avait un projet d'éolien. Bon,
oui, sur Matiti.
Ça aurait donné que 5 mégas.
Sur Matiti. Mais il a quand même avorté pour une raison qui est...
Financière.
Oui, pour une raison financière. Bon, il y a un truc plus intime que ça.
Hein, oui.
Qui fait qu'on ne va pas rentrer dans
le...
Ça, c'est pas fait. C'est une raison de personne. Bon, qui n'a pas pu monter
le projet. Vous savez bien, monsieur Dubourg, on connaît le dossier,
mais en grande partie. Et voilà, le promoteur était en fin de... Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ce que je dis, c'est qu'il faut s'y pencher sérieusement. Le complément, le thermique de secours, certes, mais tôt ou tard, il faudra passer à un mix énergétique où on aura majoritairement des énergies renouvelables. Alors c'est déjà le cas à cause de grâce au barrage de Petit-Saut. Vous noterez qu'on ne parle plus du tout dans les débats, mais plus du tout, ni M. Riemann ni personne, de deuxième barrage hydroélectrique.
J'y viens,
on ne parle pas de deuxième barrage hydroélectrique qui, pendant longtemps, la campagne à élection de la CTG en 2015, était l'hypothèse favorite de la majorité de M. Alexandre.
J'y viens, M. Audebourg, et je vous demanderai de me laisser parler.
Mais vous savez pourquoi ça n'a pas été retenu?
Je vais vous poser la question, mais avant ça, on va revenir un petit peu sur un ton plus grave. Moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui, et pardonnez-moi de poser la question, si malheureusement aujourd'hui le projet est à l'arrêt, si la décision du juge est maintenue, quel est l'impact sur le personnel concrètement?
Sur notre personnel, justement, c'est que tout reste ouvert, parce qu'on a déjà des structures qui ferment à différents endroits sur le territoire hexagonal ou même encore dans les Outre-mer. Aujourd'hui, des personnels sont licenciés par rapport à cela. Donc nous, ça sera la question, et ça je l'ai dit, nous on posera la question en interne. Ok, la structure ne se fait pas, et quel est l'avenir de ces personnes? Non, mais en fait, pour être puriste, si on doit être puriste, tout simplement... Nous, on prend la parole, je prends la parole pour vraiment alerter, expliquer les raisons du pourquoi. Mais dans l'absolu, j'ai envie de dire, s'ils ne veulent pas faire fonctionner la centrale thermique ou ils veulent faire autre chose, ils n'ont qu'à décider comme ils veulent. Hein. Dans l'absolu, on ne s'y opposera pas dans la mesure où on sait que ça va poser problème, on aura à dire, on aura averti. Maintenant, après, les décideurs prendront les décisions. Si demain, la justice dit pas de centrale et que dit bon, il faut faire autre chose, les gens vont décider. Mais on ne pourra pas nous taxer de dire qu'on n'est pas averti. Et moi, je ne dirais pas comme certains, oui, il y aura du blackout. Non, je dis juste que sans avec la centrale de Radical Magris, avec sa vétusté, il y a du blackout qui se fait de temps en temps. C'est sûr que là, on n'aura plus de délestage tournant sur le territoire parce qu'on ne pourra pas répondre à la demande de tout le monde à l'instant T. Néanmoins, les décideurs, je pense, auront imaginé des choses pour que les choses soient comblées, du moins je l'espère, mais ça, dans le timing, ça me paraît plus que limite. Et là, aujourd'hui, la priorité, c'est de dire, bon, le personnel, donc il y a 100 personnes là, 100 familles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles vont devenir aujourd'hui, au moment où je vous parle? La question commence à être posée, on n'a pas la réponse. Et ça nous pose un problème majeur. Donc, la centrale, elle est dans les mains du juridique aujourd'hui, son avenir est dans les mains du juridique. Quelle que soit la décision, nous, clairement, on s'y plaira, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est sûr qu'en interne, il va falloir qu'on nous réponde sur le personnel.
J'en viens à votre question, ne vous inquiétez pas. J'ai une question pour vous avant. Les organisations ont parlé et parlent d'alternatives. C'est un mot qui revient, qui est mentionné, mais il n'y a pas de proposition. Est-ce que vous avez eu vent de propositions par d'alternatives ou est-ce
pourquoi
que
propositions pourquoi
des propositions d'alternatives au projet.
Mais c'est une blague ou quoi?
Non, c'est pas une blague. Est-ce
c'est
que vous en
c'est,
avez
c'est une blague, ça. S'il y a des informations qu'on ne cesse d'entendre, il y a des rapports du Générgue, mm-hmm. il y a des rapports de l'ADEME. Ben, il suffit de consulter tout ça. Il suffit d'aller à la fois. Il faut arrêter. Moi, je suis offusqué d'entendre ça. Parce que vous présentez, vous me dites pas est-ce qu'il y a des alternatives. Vous avez posé la question en disant mais il n'y a pas d'alternative.
Monsieur Hautebourg, je n'ai jamais dit ça. S'il vous plaît.
La manière dont vous posez la question
dans ce sens. Est-ce qu'il y a des propositions?
Mais évidemment il y a des propositions.
Bah,
tout le monde sait qu'il y a des propositions. Il y a un rapport de l'ADEME de 2020 qui dit qu'en se mettant au travail tout de suite. On peut avoir un 100% un mix en ENR en 2025. Je rejoins M. Riemann en disant qu'il faut peut-être pas 100%, il faut garder une sécurité thermique. Peut-être qu'on peut aller à 90% en ENR. Le rapport de l'ADEME existe. Il y a le rapport du GNR qui détaille plus de 200 projets, un petit peu de ceci, de ceci, de ceci, de cela, qui attend la signature du préfet, et selon des calculs, des études très claires, montrent que ça pourrait créer 500 à 600 emplois avec, alors je dis souvent les auditeurs, ENR, énergie renouvelable. Merci. Donc les alternatives existent, mais effectivement, il y a une petite musique qui dit qu'il n'y a pas d'alternative. Alors. Par contre, quand M. Riemann dit que c'est dans les mains du juridique, la vérité, c'est que c'est dans les mains du politique. Pourquoi? Et ça, on a des inquiétudes, mais bon, comme il dit, les politiques prendront leurs responsabilités. S'ils veulent maintenir le projet dans un endroit inopportun et avec une énergie qui n'est pas super moderne, c'est leur problème. Mais on a entendu M. Le Cornu en début de semaine dire que le gouvernement soutenait. Donc finalement, il paraît qu'il y a une indépendance de la justice par rapport aux politiques dans ce pays, mais c'est vrai qu'il y a de très grosses inquiétudes.
La justice l'a prouvé à deux reprises, hein, M. Hautebourg. Hmm? La justice l'a prouvé à deux reprises qu'elle était indépendante.
Jusqu'à une certaine limite, parce que là on va au plus haut.
Alors merci. Donc,
et on a entendu que M. Hautebourg ne respectait pas ça.
Il est en faveur du projet, donc vous, M. Hautebourg, vous êtes inquiet.
Oui, je suis inquiet, mais je pense que le bon sens va triompher. Et puis, c'est surtout le fait qu'on se dessaisit de ce projet au niveau local. Parce que M. Le Cornu s'est exprimé, mais on n'a pas entendu une position franche de M. Serville. C'est-à-dire que la CTG a fait un recours au titre qu'elle n'avait pas été consultée. C'est ça, au moment. C'est dans ce sens-là que la CTG a fait un recours. Mais la CTG ne sait pas clairement, en tout cas, sauf si M. Riemann a entendu, j'ai pas entendu M. Serville dire clairement qu'il était en faveur de ce projet.
Lors de la plénière de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est
oui.
Bien affirmé. Puisque,
oui.
Il y a des débats au sein de,
oui,
de l'Assemblée.
Non, il dit, comme on entend aussi cette petite musique, qu'il y a urgence. Mais sur le fond, je n'ai pas trouvé fanatique. Et ce serait bien de prendre. On nous joue toujours l'urgence. Mais la vérité, c'est que si ce projet est définitivement arrêté, on va voir comme par magie qu'on va se mettre à déployer des alternatives. On va effectivement continuer à rafistoler des grottes des cannes. Qui peut encore tenir un petit peu. Alors, je me méfie du risque industriel. Donc, aujourd'hui, c'est pas la fin du monde si ce projet est définitivement arrêté. Il faut arrêter de faire peur.
Monsieur Riemann, justement, que pensez-vous du soutien de Monsieur Lecornu, est-ce qu'il est bienvenu? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Moi, ce sur quoi je veux que vous puissiez vous prononcer, c'est sur son propos sur le manque de prospective hein, qu'il a dénoncé, justement sur ce deuxième barrage qui n'est pas venu au bon moment.
Écoutez, selon lui. Alors, encore une fois, vous savez, il y a des gens qui parlent et puis ils oublient. Ils oublient. Donc, M. Lecornu n'était pas là, mais je ne dirais pas, je ne reprendrai pas les mots de M. Hautebourg en disant qu'on s'est dessaisi. Moi, je pense qu'on ne s'est jamais saisi du problème, dans le fond. D'accord ? Et là, effectivement, les élus locaux, ils en foutaient gravement. C'est pas d'hier qu'on parle de la situation énergétique sur le territoire. Bon. Lorsque M. Lecornu dit ça, c'est parce qu'on voit que M. Lecornu ne connaît pas le territoire guyanais.
D'accord. D'accord.
Lorsqu'il parle, ouais. Le deuxième barrage n'est pas arrivé au moment opportun. C'est un non-sens qu'il dit. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi le second barrage avait été évoqué et n'a pas forcément été validé? La Guyane est un territoire qui est plat. Il n'y a pas de dénivelé. D'accord? Pour qu'on puisse faire un deuxième barrage comme Petit Saut, sur le territoire guyanais, il faut faire la même chose. C'est quoi? C'est noyer des kilomètres et des kilomètres carrés de végétation.
Apparemment, vous avez une idée de la surface?
De quoi?
De combien de,
combien de
centaines d'hectares ou de kilomètres carrés?
Combien de surface à immerger?
Combien de en noyer, oui. Si on faisait des gamas,
sur la deuxième
sur la mana.
Plus de 100 kilomètres carrés.
Ouais, c'est pas négligeable en méthanisation.
J'y arrive justement. Je rappelle c'est que la centrale de Petit Saut, lorsqu'elle était mise en route, pendant 20 ans, Petit Saut a dégagé du méthane. Et le méthane est bien plus nocif en matière de gaz à effet de serre que le CO2.
Je peux compléter. Des études disent que pendant les 78 premières années d'exploitation, parce que ça dégage moins, mais ça va encore dégager du méthane, pendant les 78 premières années d'exploitation de Petit Saut, c'est pire écologiquement que des grottes des cannes.
Non, c'est pour ça que, non, pendant 20 ans, pourquoi? Parce qu'on a remarqué que maintenant les émanations de méthane font qu'aujourd'hui, bon, ça a été plus vite que prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie a repris son cours. C'est que ce qui a créé une catastrophe écologique au moment d'immerger toute cette partie du territoire, la vie a repris son cours. Donc aujourd'hui, maintenant, tout le bassin de Petit Saut a un nouvel écosystème. Et la nature a repris ses droits, je vais dire ça comme ça, de la sorte. Mais attention, celui ou celle qui souhaite mettre un deuxième barrage comme Petit Saut, il faut qu'il soit conscient de ce qui va se faire derrière. Et c'est pour ça que très rapidement, certains ont dit, bon, écoutez, peut-être pas ça, finalement. Après, quand on rentre en étant vraiment puriste sur le volet écologique, la biomasse, aujourd'hui, comme on dit, c'est du bois que vous brûlez pour faire tourner la machine. Là, on va utiliser les déchets de la défriche agricole. Sauf que tous les bois ne brûlent pas comme ça sur le territoire. On le sait bien. Et donc, il ne faut pas raconter aux gens des histoires. C'est pour ça que le développement de la biomasse a ses limites. Je prends les cas de nos voisins antillais et puis après nos plus loin voisins réunionnais. Moitié de l'année, ils brûlent de la bagasse de canne à sucre. L'autre partie de l'année, ils brûlent des granulés de bois qui viennent faire venir des États-Unis. Ou encore, s'il n'y a plus de granulés de bois, ils font venir du charbon d'Afrique du Sud, en l'occurrence à La Réunion.
Pas très sérieux tout
donc,
ça.
Donc, quels que soient les choix qui doivent être faits en conscience de la réalité du territoire. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quelle est la limite. Et c'est pour ça que nous, voyant que quand on prend l'arrêté du territoire guyanais, on se dit que la biomasse, quand vous la faites, quand vous l'utilisez, elle est moins 70% moins de CO2.
Après, oui.
Après, faut pas se tromper non plus. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le CO2 qui est émis aujourd'hui, il est bien plus important que notre capacité à l'absorber. Sauf que, encore une fois, pour des raisons économiques et financières, et M. Hautebourg le sait très bien, la technologie permet aujourd'hui de capter le CO2, de le transformer. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a l'année dernière, ils ont inauguré un système dans un pays africain, je crois que c'est le Rwanda, où est-ce qu'effectivement, ils ont un système de production où ils récupèrent le CO2 et le transforment en matière solide, qui ressemble à du plastique, mais qui est plus solide que le plastique, qui a une autre vertu et qui l'utilise dans le monde de la construction. Mais tout ça, ça a un coût. Et tout ce qu'on pourra dire, ce qui va venir sur la table, in fine, soit en amont ou en aval de votre projet, c'est l'argent. Et pour finir, un exemple tout simple. Le rapport qui a été donné pour le travail sur la PPE dit quoi? Pour la transition écologique et énergétique sur la Guyane, le coût est à peu près 1,3 milliard d'euros. Vous vous rendez compte que l'État et la CTG cumulés, les deux structures, mettre sur la table 77 millions d'euros. Donc, les milliards de 100 millions, ils viennent d'où? Ils viennent du monde de la finance. Et on s'attendait comment la finance, ça marche. Si quand je mets mon argent là, je n'ai pas mon seuil de rentabilité à 30% et je n'amortis pas mon investissement à tant d'années, je ne m'installe pas. Et c'est pour cette raison-là que l'État qui avait prévu payer l'actif à un taux de 9% au niveau des investissements, pour la Guyane et Mayotte, ils ont estimé que c'était des investissements à risque sur nos territoires, ils ont augmenté ce pourcentage à 11%. On voit bien que donc le problème de fond, c'est l'argent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités techniques qui permettraient, je vais vous le dire, hein, si demain matin, les pays du monde veulent régler le problème du CO2, les émissions de gaz à effet de serre, il y aurait comme ça. Sauf que...
Pas tout à fait, mais on peut avancer.
Non, mais je fais exprès de dire ça pourquoi. Parce que l'enjeu, il est d'abord économique et il est surtout géopolitique. D'accord? Parce qu'il y a des puissances qui ont fait leur lit dans tout ce qui est l'énergie fossile et consorts, on le sait très bien. Aujourd'hui, on sait fabriquer du carburant de synthèse à foison. Pourquoi on n'a toujours pas développé depuis le temps? Pourquoi? Et des carburants qui n'émettent pas autant de gaz à effet de serre. Ou même encore, on s'est créé des systèmes fermés où l'impact carbone est neutre. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas déployé ça dans le monde entier, je veux dire ça comme ça. Après, la Guyane n'est pas le territoire qui pollue le plus dans le monde. Hein. Faut pas se raconter non plus. Hein.
Oui, bon, c'est justement parce que c'est pas le territoire le plus pollué dans le monde qu'il faut le préserver. Et quand j'entends souvent que les Occidentaux ont fait des erreurs, qu'il faut qu'ils nous laissent tranquilles, mais c'est pas parce que les autres font des erreurs qu'il faut qu'on suive et qu'on doit développer donc cette identité, conserver notre rapport, hein, à respirer un air pur, plus totalement pur, un air pur, à boire de l'eau pure, avoir une alimentation saine. Donc on est d'accord, au moins sur un point, c'est absolument un choix politique, de la même manière que l'État aide l'investisseur EDF dans ce projet de centrale, et peut aussi accompagner financièrement le développement des énergies renouvelables, sachant, et vous le savez, que sur certains projets, il y a des investisseurs locaux. Parce qu'il y a des investisseurs locaux qui... Alors, c'est pas la grande finance internationale, mais des investisseurs qui... Et il y a un certain nombre de petites entreprises, hein, d'installations, et c'est bien ça, le Générgue. Alors, que ce soit des entreprises locales, que ce soit des filières de grandes sociétés internationales qui ont aussi les moyens. Je pense à la société Veolia, par exemple, qui est un géant. Donc, cet argent, il peut aussi être mobilisé localement. Et on ne peut pas que dire que l'argent sera mobilisé pour une centrale thermique uniquement.
Pour préciser, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'argent, aujourd'hui, est le maître mot. Nous, à la base, nous étions totalement opposés, et nous le sommes encore, à l'ouverture. L'ouverture de l'électricité sur le marché. D'accord ? Ça, c'était la plus grosse erreur qu'ils aient pu faire. Parce que depuis l'ouverture du marché, l'électricité au marché, les prix n'ont jamais cessé d'augmenter. Et nous, aujourd'hui, on est pour que l'énergie, l'électricité revienne dans les mains du public, afin qu'il n'y ait pas cette espèce de spoliation sur ça. Donc, le fond du problème aujourd'hui, c'est bien ça, c'est de dire qu'on a mis une marchandise qui n'en est pas une pour nous, mais bien un bien de première nécessité, qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça boursicote avec ça, et les prix augmentent, ils fluctuent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut sa part du gâteau. Si l'électricité était restée dans les mains du public, on n'aurait pas ce débat-là aujourd'hui. Ça, je vous le garantis.
Messieurs, je vous remercie.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous pour ce moment d'expertise qui fut passionné, de qualité. Retrouvez-nous sur nos réseaux en intégralité sur Facebook, Radio Mayori Campus, et via nos liens sur nos réseaux. À vendredi prochain, même lieu, même heure, même rendez-vous.